On a avec nous un chercheur, M. Étienne Artigot, qui est de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, l'IREX. C'est un groupe de recherche, bon, surtout centré sur des chercheurs de l'Université de Montréal, mais il y a d'autres collaborateurs de McGill, entre autres. C'est un regroupement de chercheurs qui travaillent sur, justement, les exoplanètes. On parle de caractérisation de planètes massives, tout ça. Mais là, on a vu dans l'actualité scientifique une nouvelle qui a passé qui nous dit qu'il y aurait une naine brune, mais qui, dans le fond, ce serait une planète. Bon, là, on veut démêler tout ça. Premièrement, bonjour, Monsieur Artigot. Merci beaucoup d'être là ce matin. Avant de parler de la découverte en tant que telle, ce serait bien de définir les termes. Qu'est-ce que c'est une naine brune et qu'est-ce qu'on définit comme une planète, dans le fond, parce que, bon, on sait tous qu'on est sur une planète, mais il y a peut-être des termes qu'on a besoin de spécifier, là.
Oui, alors ça, c'est très important, parce que dans ces nouvelles-là, il y a beaucoup de gens qui s'excitent. On aime bien mettre le P-word, dire on a trouvé une planète.
Oui.
Donc, avant d'embarquer dans c'est quoi une planète, rappelons c'est quoi une étoile.
Oui.
Si une étoile, donc comme notre Soleil, c'est une étoile assez ordinaire, ça se forme au départ quand un nuage de gaz s'effondre sous sa propre gravité. Donc, si vous faites un petit Google, nébuleuse d'Orion,
oui,
c'est un très, très bel exemple. Des belles nébuleuses, ça fait des très belles images astronomiques. Elles s'effondrent, c'est des nuages de gaz. Sous leur propre gravité, ils s'effondrent. Puis ces boules de gaz très denses que ça donne à la fin vont démarrer des réactions nucléaires puis rester chaudes pendant des milliards d'années. Donc, en passant, si vous êtes vivant aujourd'hui, si on se jase aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des réactions nucléaires au centre du Soleil. Je sais pas si ça vous rassure, mais ça fait des milliards d'années que ça dure. Ça va durer encore des milliards d'années, il n'y a pas de stress. Mais avec cette définition-là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est pas, il y a deux choses qui sont pas liées. Mm-hmm. Le fait qu'il y ait une boule de gaz qui s'effondre et le fait qu'il y ait des réactions nucléaires, a priori, c'est pas nécessairement lié. Puis les gens, depuis les années 70, se posaient la question, est-ce que des boules de gaz peuvent s'effondrer, mais trop peu massives pour démarrer des réactions nucléaires? Et on a cherché longtemps. Et en la première naine brune, donc c'est des objets qui se forment comme une étoile, mais qui sont pas des étoiles au sens nucléaire du terme. Est-ce qu'elles existent? Alors, c'est très dur à trouver et c'est juste avec des caméras infrarouges, des objets, donc c'est des objets qui vont être très froids, il n'y a pas de réaction nucléaire pour les garder.
Donc il n'y a pas de chaleur de la même façon sur une naine brune?
Au tout début de la vie d'une étoile, tout début de la vie d'une naine brune, quand le gaz se contracte, il se réchauffe.
Mm-hmm.
Donc elle part chaude. Une étoile, au tout début de sa vie, ça ne brille pas parce qu'il y a des réactions nucléaires. Ça brille parce qu'elle se contracte, mais ça ne dure pas longtemps. Et après ça, c'est les réactions nucléaires qui embarquent. Une naine brune, la même chose, elle se contracte, elle devient chaude. Puis là, il se passe rien. C'est comme un gros Jupiter. Et il va se refroidir indéfiniment.
OK.
Okay?
Et donc, là, c'est la chaleur résiduelle de la contraction. C'est avec ça, là. C'est ça, la chaleur qu'elle produit, mais sinon, il n'y en a pas.
Sinon, il n'y en a pas. Et elle va briller pendant des milliards d'années, mais très faiblement. Puis certains objets, celui dont on parle, il est autour d'à peu près 700-800 degrés Celsius.
Okay? OK.
Donc, c'est chaud, là. C'est plus chaud qu'un four.
Oui,
mais
oui,
c'est pas si chaud que ça. C'est pas le soleil à près de 6000 degrés, là.
On peut faire des muffins, mais...
On peut, vos muffins, ils vont être bien grillés. Donc, on est dans un domaine entre deux. Après ça, il y a autre chose, puis là, on parle des planètes, donc des objets qui vont ressembler... Là, on parle des planètes géantes. On oublie la Terre, là. Ça, c'est un autre sujet qui nous intéresse beaucoup, mais des planètes géantes...
Est-ce que Jupiter est considéré comme
c'est
une
ça.
Planète géante?
L'exemple, c'est Jupiter.
Oui.
Okay. Donc, Jupiter, c'est une planète géante. Ça ne ressemble pas du tout à la Terre. C'est une grosse boule de gaz. Et... c'est des objets qui, dans le fond, commencent à ressembler à des naines brunes. Donc, c'est un objet, une grosse boule de gaz qui s'est formée, qui irradie. Jupiter irradie pas juste parce que le Soleil est clair, mais parce qu'il irradie encore de sa formation il y a 4 milliards et demi d'années. Donc, c'est des objets qui vont irradier. Donc là, il y a une espèce de flou artistique qui s'installe entre une étoile ratée, une naine brune qui va faire 50 fois la masse de Jupiter, et Jupiter, là, il y a une espèce de flou artistique.
Sauf qu'est-ce qu'une planète, ça tourne automatiquement autour d'une étoile?
Alors, c'est ça la chose. Alors, il y a une définition. Alors, il y a tous les cas intermédiaires que vous pouvez imaginer, ils existent tous. Vous avez des naines brunes qui tournent autour d'étoiles. Vous avez des objets qui ont la masse, quelquefois la masse de Jupiter, qui sont tout seuls dans l'espace.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est pas une planète? Là, le problème, c'est qu'on a une définition qui a été inventée bien avant qu'on trouve tous ces objets-là. Là, ils rentrent plus dans les petites boîtes qu'on a définies. Donc, il y a une définition formelle
qui dit... C'est comme une planète trans, là.
Là. Il y a clairement une ambiguïté sur sa nature. Mais c'est juste qu'on essaie de coller des définitions qui existaient avant qu'on trouve toutes ces bêtes-là. Et là, donc SIM 0136, donc l'objet dont on parle ici, on pensait que c'était une naine brune ordinaire, un objet qui fait 30-50 fois la masse de Jupiter. Et on s'est aperçu que cet objet-là, donc c'est le sujet de la mm-hmm, découverte, oui. se promène avec un groupe d'étoiles jeunes et qu'il est en fait beaucoup plus jeune qu'on pensait. Alors, c'est quoi le lien entre plus jeune et plus léger ou une planète? Il y a un lien. Plus un objet est massif, plus il va garder longtemps sa chaleur. Donc, à une température donnée, notre objet, on vous a dit, est autour de 700-800 degrés Celsius. À une température donnée, vous savez sa température, mais vous ne savez pas sa masse. Mais si vous savez, et vous ne savez pas son âge, mais si vous savez qu'il est vieux, c'est donc qu'il a pris longtemps pour arriver à cette température, c'est donc qu'il est massif. Si vous savez qu'il est jeune, il s'est refroidi vite, il a moins de masse, mm-hmm. il va se refroidir plus rapidement.
Oui.
Donc, il va se retrouver à cette température-là plus vite. Donc là, on s'est aperçu qu'il suivait des étoiles toutes jeunes, 200 millions d'années. Ça, c'est la prime jeunesse. Voilà, le Soleil, il y a 4 milliards et demi, hein, donc c'est 20 fois plus jeune. Et pour qu'il se retrouve aussi vite, aussi froid, c'est donc qu'il est très léger, cet objet-là. Et en fait, il est dans le régime de masse qu'on considère une planète, qui est à peu près 13 fois la masse de Jupiter. Au-delà de 13 fois, par convention, on dit c'est une naine brune, c'est une étoile ratée, au sens plus conventionnel, des milliers de naines brunes qu'on connaît. En dessous de ça, on dit non, ça c'est une planète, ça a des propriétés qui vont ressembler à celles de Jupiter. Mais c'est assez arbitraire.
Donc, si je comprends bien, SIMP 0136, qui était ce qu'on croyait être une naine brune, ou ouais. ce que vous appelez une étoile qui a manqué son coup, là, une étoile ratée, serait finalement une planète, puis on a compris ça à travers la vitesse de refroidissement.
Ben, c'est un mélange de deux choses. Autres. Premièrement, elle se balade avec un groupe d'étoiles jeunes. Ça, c'est la grosse découverte que fait Jonathan Gagné, qui est un ancien de l'UDM, qui travaille à Washington maintenant. Et il s'est aperçu que cet objet-là suivait dans l'espace un groupe d'étoiles jeunes. Donc, on peut dire, non, ils se formaient avec eux. Ces objets-là, on sait qu'ils ont à peu près 200 millions d'années. Donc, on connaît son âge. On savait sa température déjà. On l'a trouvé en 2006. On connaissait sa température. Mais là, en faisant le pont entre les deux, on s'est dit, ah, il est beaucoup plus léger. On pensait qu'il y avait des milliards d'années.
Oui.
Non, il y a 200 millions d'années. Beaucoup plus jeune, donc beaucoup plus léger. Là, il y a des modèles qui permettent de faire le pont entre les deux. Donc, c'est ça la découverte. Et c'est un objet, c'est ça. Donc, on découvre ses propriétés, on en connaissait certaines, mais le chaînon manquant, c'était soit sa masse, soit son âge. Là, en trouvant qu'il se promène avec des étoiles jeunes, on sait son âge, donc sa masse.
Et là, cette découverte-là, c'est une découverte québécoise, là, si on
peut
dire.
C'est très québécois comme découverte. Donc, la découverte, au départ, on l'a fait au Chili avec un instrument fait à l'Université de Montréal. On a trouvé cet objet-là dans le sondage infrarouge de mouvement propre, simple. C'est un des seuls objets astronomiques qui a un nom français. C'est sondage infrarouge de mouvement propre, si vous voulez savoir.
Oui, oui.
Donc, c'est fait par l'équipe de Montréal. Ensuite, en 2009, on s'est aperçu que cet objet-là montrait une variation de son flux dans le temps. Donc, on sait qu'il tourne en 2,4 heures. La journée sur cet objet-là dure 2,4 heures. On voit la signature dans son flux de nuages à sa surface. Donc, on le voit varier tous les 2,4 heures quand des tempêtes passent à sa surface. Ça s'était fait à Mégantique, sur le télescope près de Sherbrooke.
Oui.
Et Jonathan Gagné, c'est un ancien de l'UDM. Il y a beaucoup de collaborations à l'UDM. Ce projet-là est démarré ici. Donc, c'est assez montréalais comme découverte.
Et cette planète-là, elle est située où? Est-ce que c'est quelque chose qui est proche de notre système solaire?
Elle est proche astronomique.
Astronomiquement
c'est comme
parlant.
Dire 200 millions d'années, c'est la prime jeunesse. Là. Elle est à peu près 20 années-lumière. C'est pas très loin. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Donc, c'est juste 5 fois plus loin que notre plus proche voisin dans la galaxie.
Donc, est-ce que c'est toujours dans notre galaxie à ce moment-là?
Amplement. Il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et là, c'est vraiment, je dis, 4 fois plus loin que le plus proche voisin. Là. C'est quand même votre voisin. Là.
Et c'est quoi les implications d'une découverte comme celle-là?
Alors, c'est important. Bon, ça ne guérira pas le cancer, on s'entend. Là. C'est une découverte fondamentale. C'est une découverte, c'est une aventure de l'esprit. Mais c'est un objet qui est beaucoup plus facile à étudier à ses propriétés-là que s'il était près d'une étoile. Comme il est tout seul, il se promène dans l'espace, on peut mettre un spectromètre, on peut analyser sa chimie, on peut faire toutes sortes d'études. Et les planètes qu'on trouve autour d'une étoile, donc qui ont les mêmes propriétés, ben on peut pas les étudier facilement parce qu'il y a une étoile à côté. Donc, c'est vraiment un raccourci dans l'étude des planètes comme Jupiter. C'est un raccourci majeur.
Oui.
Et on en cherche d'autres. Jonathan Gagné, il en a trouvé d'autres là qui sont publiés. Il y en a sur lesquels il travaille encore, qui sont presque jusqu'à la masse de Jupiter. Donc, on a des objets beaucoup plus faciles à étudier que ce que les grands télescopes qui cherchent des planètes autour de nos étoiles trouvent.
Donc, c'est quoi les aspirations que vous avez par rapport à ces découvertes-là? Parce que là, c'est excitant, tout ça.
Ben là, il y a plusieurs choses. Dans l'IREX, il y a une autre avenue de recherche qui est très excitante, c'est l'étude des planètes comme la Terre. Donc ça, c'est complètement autre chose. C'est dans l'avenir, c'est une des choses qui est très excitante, qui s'en vient. Et SIMS-0136, on va aussi l'observer avec le remplaçant du télescope Hubble, le télescope James Webb. Donc, on va observer son spectre évoluer dans le temps et on va apprendre, en fait, toutes sortes de choses sur la chimie de ces nuages. Et en fait, on a un objet qui est plus chaud que Jupiter. On va apprendre des choses sur les nuages dans les planètes géantes, mais plus chaude que Jupiter. Et ça n'existe pas dans notre système solaire.
Vraiment, c'est fascinant, tout ça. On est comme un peu au début, mais c'est une belle découverte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler. Encore une fois, c'était Étienne Artigot, qui est docteur en astrophysique à l'Université de Montréal et qui est de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Quand on va regarder le ciel ce soir, on va penser un peu à lui et aux belles découvertes qui ont été faites chez nous, grâce à des chercheurs comme vous, Monsieur Artigot. Merci beaucoup.